Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 63e Weekly News, votre émission d'actu comics et dérivés. Et avec moi cette semaine pour vous parler de toutes ces infos, Sam.
Bonsoir.
Et Valentin.
Hello les gens.
Au programme de cette semaine, beaucoup d'infos cinéma qui sont tombées. On va revenir un petit peu sur du DC, sur de la Fox, pour la Marvel aussi. Et puis bien évidemment d'autres produits geeks qui ont eu des grosses infos cette semaine. Du côté jeux vidéo, nous aurons deux petites news. Le gros sujet sera lui consacré aux ventes de septembre. On verra qui a trusté les ventes, même si on se doutait que DC était devant. Sont-ils si loin devant? C'est ce qu'on verra dans le gros sujet. Et enfin, les brèves comics avec plein de nouveaux teasers Marvel, un crossover DC qui débarque en plus de Forever Evil et beaucoup d'annonces indé. En fin d'émission, nous aurons les mails de nos auditeurs et ce sera tout. Et ce sera déjà bien suffisant pour cette émission qui risque d'être déjà bien assez longue.
Oh oui.
Je suis Sylvain, vous écoutez le Weekly News. Et on commence comme chaque semaine avec le What's Up, nos dernières geekeries du moment. Sam.
Bah moi je me suis revu un film des années 80, un de mes préférés, un film qui émeut, un film quasiment romantique en fait, même si avec le recul je me rends compte qu'il y a un message derrière un peu anti-immigrés illégaux, ce qui est un peu étrange. Je parle bien entendu de Predator.
Un message anti-immigrés illégaux, ah ouais?
Bah oui, le Predator c'est l'immigré illégal. Qu'est-ce qu'il vient squatter dans nos forêts, à tuer nos soldats, non mais c'est en forêt.
Est-ce que... je sais pas si c'était franchement le message de départ du film.
Ah oui, et le truc, c'est... l'autre message, c'est bien évidemment qu'il faut tuer des communistes. Mais ne vous inquiétez pas les gens, hein. Les communistes c'est comme les nazis, ça n'a pas d'âme, donc on peut y aller.
Enfin en même temps, toute la production cinéma américaine entre 1950 et 1990, c'était même encore un peu après,
on a continué. Hein. Même quand il n'y avait plus de communistes, on a continué.
Quand le mur était tombé, on fallait encore tuer les communistes.
Mais bon, ça m'a rappelé des bons souvenirs ce film, c'est quand même, ça reste même 25 ans plus tard une putain de tuerie.
Et ouais, c'était un bon petit film à l'époque et qui finalement a atteint un gros statut culte hein, par la suite.
Ouais.
Ouais, avec Alien.
Bah ouais, puis après il y a eu le mélange des deux.
Oui, malheureusement.
Comme quoi, des fois, il faut pas vraiment mélanger les torchons et les serviettes.
Ces films n'ont pas existé.
Pour certains, on ne voit pas, non. Et toi, Valentin, ton WhatsApp?
Alors moi, en WhatsApp, de la lecture, j'ai rattrapé le Green Lantern Saga et je me suis lu les notes, le tome 8 de Boulet. Et il y a le retour d'une chaîne YouTube que j'adore, les Happy Crop Battle of History, avec le rematch entre Hitler et Vader. Donc si vous connaissez pas, allez faire un tour. Il y a vraiment de très très bons battles entre, par exemple, Doctor Who et le Doc Brown de Retour vers le Futur.
Et, très bien. Oui, je t'en prie, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
Et il y a aussi la vidéo du joueur du grenier. Spécialement Batman et Superman, donc ça nous concerne.
Ouais, mais tout le monde fait du comics maintenant, c'est une honte.
Plagiat. Voilà.
Tous ces profanes. Le mec en rajoute des tonnes.
J'ai écouté le Comic City spécial Star Wars.
Auto-promo.
Ouais, l'auto-promo un petit peu, ça fait toujours du bien. Passons-nous de la brosse à reluire.
Et qui était vraiment très très bien.
Bah écoute, merci. Merci beaucoup. Faut dire que c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé sur celui-ci. Preuve en est, puisque je n'ai rien foutu. Mais ma seule présence embellit l'émission, comme de toute façon chaque semaine. Arrêtez-moi surtout.
Non, tu peux y aller. Continue à t'envoyer des fleurs, mon grand. Hein.
Le dit le mec qui ne s'est pas réveillé pour l'émission et qui est arrivé une heure et demie en retard.
Oui, on saura te le faire payer, Steve. T'inquiète pas.
Ma décharge me lève très tôt le matin.
Parlons pas des tessons.
Oh putain. Alors pour moi, le WhatsApp, ça va être très court. C'est le week-end, j'ai eu quelques petits imprévus qui me sont tombés dessus, ce qui fait que ça a quand même bien limité le temps de ce que je voulais faire. Je voulais faire plein de trucs, du coup j'ai fait vachement moins de trucs. C'est la phrase bien utile. J'ai surtout rattrapé pas mal de pilotes de séries que je n'avais pas encore eu le temps de voir. Et tout ça pour préparer ce fameux spécial que l'on vous fera normalement la semaine prochaine sur la rentrée des séries télé aux USA.
Oui, parce que c'est la seule rentrée qui compte, en fait.
Tu vois, donc là, non seulement je fais de l'autopromo, mais en plus, je fais du teasing.
Oui.
Deux en un.
C'est sûr que la rentrée de Joséphine et de Julie Lescaut, c'est moins intéressant que la rentrée...
Oui, ça passionne moins.
Elles auront leur place dans notre émission, car ce sont des incontournables aujourd'hui, monsieur. C'est...
Oui.
Voilà.
Oh. C'est culte.
Au Camping Paradis, je sais que il y a la rentrée ce soir, il me semble.
Fais quitte. Le genre de truc où j'ai pas regardé un seul épisode. Oh putain, quelle horreur. Bref, passons aux Screen News. Certes, on était dans le ton, mais des choses qui sont intéressantes cette fois-ci. Et on va commencer avec un fan-film de Wonder Woman, puisque DC déclamait, enfin Warner déclamait qu'un film de Wonder Woman, ce serait dur à faire, etc.
Oui.
Qui savait vraiment pas comment s'y prendre. Eh bien, Sam Balcombe et Riley Vanderbilt ont fait un petit teaser pour montrer qu'il n'était pas si difficile que ça de faire un truc Wonder Woman, et même sans grand moyen, ils en ont quand même un petit peu, hein, ils n'ont pas fait ça avec la caméra familiale, faut pas pousser. Ils ont quand même quelques petits moyens, mais on voit bien qu'il y a quand même ils ont pas de gros budget, et ils arrivent à faire un truc qui tient la route en 2 minutes 30. C'était vraiment plutôt pas mal.
Mmh. Et puis ça, manifestement, ça a bien plu à Warner Bros, puisque maintenant ça y est, ils se sont réveillés et Wonder Woman et Dixie, maintenant une priorité, il faut absolument la ramener à l'écran, que ce soit au cinéma ou à la télé.
Et franchement, il m'a surpris ce fan film, parce que je m'attendais pas du tout à ça, et voir justement le parallèle entre les méchants normaux entre guillemets et des monstres mythologiques. Ça vaut vraiment le coup et ça m'a vraiment bluffé et je m'attendais vraiment pas à ça.
Bon, alors clairement, on voit que tout est tourné sur fond vert. Hein, la photographie de l'image, bon, ça s'en ressent, c'est un choix esthétique qu'ils ont pris, surtout, je pense, pour le côté moyen assez limité. Mais ça donnait quelque chose de franchement plutôt pas mal. Bon, en même temps, Sam Balcombe et Riley Vanderbilt sont des gens qui sont déjà connus. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle Team Unicorn, qui font pas mal de vidéos assez geek sur l'univers de geek et jeux vidéo. Et apparemment, ils ont actuellement un pilote chez Adult Swim. Cette chaîne qui diffuse notamment Metalocalypse, qui diffuse Archer, je crois. Ou c'est sur Showtime Archer?
Ah, j'en ai aucune idée.
Bon bref, enfin une chaîne qui diffuse pas mal de dessins animés relativement pour adultes, mais aussi des quelques séries live. Enfin voilà, une chaîne du câble. Donc plutôt pas mal. Allez découvrir ça. Vous pourrez le découvrir sur YouTube. Vous tapez Wonder Woman short film ou même simplement Wonder Woman, vous trouverez rapidement dessus, je pense. Continuons avec le créateur de Constantine, enfin un des créateurs de Constantine, Steve Bissett, ou Stephen R. Bissett comme on peut l'appeler, hein, puisque rappelons que Steve est un diminutif de Stephen aux États-Unis. Eh bien, lui, il ne croit pas du tout à ce projet de Constantine sur ABC. Il pense qu'on va avoir une grosse merde.
Oui. Ça se prête plutôt à la télé, je trouve, Constantine, pourtant. Il faut juste mettre un peu de moyens. Mais je comprends ce qu'il veut dire, parce que Constantine, il faut quand même un certain esprit derrière, assez révérencieux. C'est pas le genre de truc qu'on va voir sur une heure de grande écoute sur un network familial.
Bah moi, j'aurais plus vu ça sur HBO ou Showtime, quoi.
Bah oui, sur une chaîne du câble, il y aurait eu plus de rentre-dedans, quoi, finalement.
Ouais, de cul aussi.
Et ce qui l'inquiète surtout, c'est que lui ne sera payé que si la série marche.
Oui, voire pas du tout, même payé.
Oui, voire pas du tout, mais il va falloir que ça marche, parce qu'il y avait déjà eu des gros problèmes de droit à l'époque du film de 2005, puisque Constantine avait déjà été opté pour un film dans les années 90, et à cause de ça, pour avoir des droits, c'est difficile. Bref, on voit que, comme d'habitude, tout va bien à Hollywood. Ça fait plaisir.
Surtout pour le droit d'essai, hein, c'est toujours...
Ben, et encore. Rappelons aussi cette histoire de Marvel
où
certains ne touchent rien. Continuons toujours chez DC avec Jimmy Jean-Louis, qu'on avait pu découvrir dans Heroes principalement. Hein, je reste dans le thème geek super-héros où il jouait l'haïtien.
Toujours
connais pas.
J'ai arrêté après l'épisode 2, voire 1. voire au milieu de l'épisode 1.
C'est lui qui effaçait, je crois, la mémoire des gens, il me semble.
C'est ça, ouais, il pouvait bloquer leur pouvoir et effacer leur mémoire, un truc dans le genre. Enfin bon, il avait un rôle assez, au départ, assez muet, puis après, il a pris un peu d'importance, mais il jouait bien le mec baraque et muet. Eh bien, apparemment, il aurait été casté pour jouer un rôle qui s'appellerait le capitaine, mais qu'il serait surnommé Amaizo dans la série Arrow.
Choix étrange, étant donné qu'Amaizo, comme on le sait, à la base, c'est un robot dans l'univers DC qui copie les pouvoirs des super-héros qu'il rencontre, notamment ceux de la Ligue en général, ce qui en général donne une baston assez intéressante, avec la tête d'Amaizo qui explose à la fin, mais ça, c'est pas grave.
Comme Red Tornado.
Voilà, oui, là, dans une série avec un budget effets spéciaux de 2,50 $ avec les taxes, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire.
Il va super bien tirer à l'arc.
Bah on verra, en tout cas c'est un associé de Anthony Aivo, logique. Et bah franchement je trouve que niveau design, enfin la tête de Jimmy Jean-Louis correspond bien au design classique d'Amaizo en tout cas. Il pourrait bien se fondre dans le personnage. On
À
verra en tout
voir.
cas ce qu'ils vont en
Ou à
faire.
pas voir dans mon cas, puisque j'ai essayé de regarder un épisode et non.
Ouais mais attends, t'as regardé un épisode résumé.
Bah oui, justement pour me faire le truc et les personnages.
Mais t'as aucun développement dans un épisode résumé. L'épisode résumé, en fait, n'est pas. En réalité, c'est pas vraiment fait pour les gens qui n'ont pas vu la série. C'est plus pour te
Bah disons que
remettre
j'ai
en
du mal
mémoire.
avec le personnage principal qui a le charisme d'une huître et un jeu d'acteur passablement peu développé.
Quoi, tu n'aimes pas voir ses muscles saillants à tout bout de champ?
Oui, voilà, c'est son talent principal, avoir des gros muscles.
Regarde mes abdos. Comme ils sont beaux.
Bah, faut que je m'y mette à Arrow, donc je vais voir si ce sera l'occasion ou pas de voir si c'est bien ou pas.
Bah, je conseille quand même de commencer par la saison 1 malgré tout. Certes, la saison 2 est plus ambitieuse, mais je pense qu'il vaut mieux commencer par la saison 1 pour comprendre tous les enjeux.
Bah, moi j'irai voir les épisodes avec Barry Allen. C'est les 8, 9 et 20, au cas où. Mais je m'attends à rien.
Bon, de toute façon, on en reparlera quand ce sera diffusé, puisque la série revient, je crois, bah, cette semaine.
Mercredi. Ouais.
Ouais, le 9 octobre. Passons maintenant à la Fox et on commence avec le scénariste de X-Men Days of the Future Past qui a été engagé et confirmé pour le reboot de Fantastic Four.
Est-ce une bonne nouvelle?
Bah, ça
Sachant
dépendra
que
du
nous
film.
savons. Ouais. Sachant que c'est aussi lui qui avait fait le premier First Class. Alors, pour certains, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Pour moi, c'est. Non.
Moi, j'avais
Bah,
bien
c'est
aimé.
le. C'est pas le meilleur film de super-héros de tous les temps, mais je trouve que c'est une bonne adaptation des X-Men, surtout quand on voit la franchise dans l'état où elle était.
Ouais, bah, elle est dans l'état dans lequel elle est toujours. Hein. À moins que Days of Future Past annule l'épisode 3.
Ah ouais. Et X-Men Origins Wolverine, qui est une très bonne bouse.
Mais non, meilleur film de tous les temps, arrête.
Bah oui.
Ils ont fait du mal à Deadpool!
Je veux dire, il y a ça, voilà. Voilà le pinacle des films de super-héros, c'est X-Men Origins Wolverine. On pourra pas faire mieux, à jamais.
Mon Dieu.
Oui, mieux dans le pire, effectivement.
En tout cas, le projet de reboot de Fantastic Four est toujours attaché à Josh Trank pour la réalisation, celui qui avait fait Chronicle.
Ah, pas mal.
Espérons qu'il sera filmé autrement qu'avec une caméra qui bouge.
Oui.
Tintin, voilà, ça c'est fait, le petit trash facile, tu vois.
Moi,
Oui,
j'avais
parce
bien
que dès
aimé
que je commence à en avoir
Chronicle.
marre de ce genre de film en caméra subjective, c'est chiant comme la mort.
Ah, je ne
Ça donne
supporte
envie de
pas.
gerber surtout.
Je ne supporte pas ces trucs de caméra à l'épaule, c'est vraiment facile.
Mais moi, je trouvais que ça se justifiait justement dans le scénario en fait de Chronicle.
Ça se justifie, je suis d'accord, c'est totalement justifié, mais ça n'empêche que j'aime pas ça. Je veux dire,
Ah
on
ben.
a vu débarquer ça principalement avec Blair Witch Project, on va dire aux yeux du grand public, parce que ça se faisait déjà, mais aux yeux du grand public, c'était Blair Witch Project. Et bah, franchement, Blair Witch Project, moi j'ai détesté, quoi. Je
Ah,
trouvais
moi j'ai
ça
bien
chiant.
aimé.
Et bah, tous ceux qui
Mais
en
c'est
sont
à voir
suivis.
une seule fois. C'est un peu le problème.
Je suis trop jeune pour l'avoir vu.
C'est vrai?
Bah
T'as jamais
j'ai.
vu Blair Witch?
Non.
Bah ça
Ah
date de
là.
99 quand même.
Et oui, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup présenté, je m'en suis aperçu dans le Comics Weekly. On avait dit qu'on le ferait et puis on l'a pas fait, mais c'est vrai que tu es un peu plus jeune que nous. C'est aussi l'intérêt, puisque tu as un avis de quelqu'un plus jeune qui n'a pas forcément les mêmes références. Et ça aussi, c'était quand même un atout pour l'émission, d'avoir quelqu'un d'un petit peu plus jeune.
Ouais.
Maintenant, on recherche quelqu'un de 70 ans aussi.
Bon, on va y arriver.
Ma voix vient de muer là. Avant j'étais. Maintenant ça va.
Allez, passons à autre chose, toujours chez la Fox, Mark Millar. Mark Millar qui a vendu un projet qui s'appelle Kindergarten Heroes Ah, la Fox, étonnamment.
Non, attends, tu veux me dire que Mark Millar a vendu un concept? Encore?
Moi, ce qui me fait rire, c'est Mark Millar qui est gros corporate, quoi. Le mec est rentré à la Fox et maintenant il vend ses concepts à la Fox directement. Et ce
Non.
qui est très fort. Oui, je t'en prie, Valentin, vas-y.
Donc ça fait après Kick-Ass, Nemesis, Superior. Maintenant il y a Kindergarten, c'est ça?
Ouais, et puis je crois qu'il y en a un autre entre les deux. Un truc qui n'est pas encore sorti. MPH, je crois, a déjà été opté chez la Fox.
Sachant qu'il a dit du script de Nemesis qu'il a vu, que c'était l'une des meilleures choses qu'il ait lues durant la dernière décennie. Voilà.
Objectivité quand tu nous tiens.
Bref, Kindergarten Heroes, eh bien c'est un projet que personne n'a vu puisque ça devait sortir en février 2012 et qu'on l'attend encore.
Comme beaucoup de comics Mark Millar, hein, faut quand même le dire.
Donc c'était censé être un truc un peu plus pour enfants. Dessiné avec Curtis Stiggs. Voilà, vraiment un truc pour enfants, des super-héros, ce qu'on appelle un picture book aux États-Unis. Bon, malheureusement, ce n'est toujours pas sorti. Je pense qu'on va avoir une sortie conjointe.
Il est loin le temps de Civil War où on avait des bons trucs.
Je sais pas, moi j'avais beaucoup aimé Superior.
Je n'ai pas lu supérieur, je ne veux pas le lire.
Moi
Bah
j'ai
là, tu
lu.
vois, je te donne tort, Sam, parce que c'était franchement vraiment pas mal, et en plus, c'est du très bon Francis Yu.
Moi j'ai
Non,
lu.
mais moi, c'est le ton Mark Millar maintenant que je trouve complètement dépassé.
Moi j'ai lu Kick-Ass 2, je me suis fait avoir par le film, je me suis dit, ah, faut, je vais acheter la BD. Ben, j'ai été déçu.
En même temps. Voilà, avec un truc qui s'appelait Kick-Ass, on ne peut être que déçu. Ça c'est fait. Voilà. On va passer maintenant à Marvel. Marvel qui a, enfin, pas vraiment volontairement révélé que l'actrice Elisabeth Olsen, on parlait d'elle pour le personnage de Scarlet Witch, eh bien, c'est plus ou moins confirmé de la bouche de Samuel L. Jackson dans une interview, qui dit qu'elle est bien présente dans le film. En tout cas, il ne sait pas ce qu'elle y fait pour le moment, puisqu'il n'a pas encore vu le script.
Alors, pour bien avoir une image d'Elisabeth Olsen, vous imaginez les autres sœurs Olsen, les jumelles, mais avant la drogue et avec du talent.
Ah, j'allais le dire avant la drogue, moi aussi. Ça
Mais
commence
d'ailleurs,
à
elles
être
deviennent
cool.
quoi ces sœurs-là? Parce qu'on les a pure
Elles ont
vues.
arrêté
Oh bah.
de jouer, d'après ce que j'ai compris, et elles font des vêtements.
Ouais, puis
Ouh.
je pense qu'elle doit faire
Et
des
puis
petits
elles comptent l'heure
séjours
de
en
l'art aussi.
rehab de temps en temps.
Elles comptent l'heure de l'art comme l'oncle Picsou, parce qu'elles sont quand même richissimes.
Elles doivent continuer de toucher des droits encore pour la fête à la maison.
Ouais, entre autres. Non,
Éminente
mais je crois
série
qu'on
des années
avait fait lui
80.
leur fortune à quelque chose comme 100 millions de dollars maintenant, donc
Ah oui, quand
ça va.
même. Donc en fait, faut que je sorte avec une de ses sœurs. Ok.
Ouais.
Bah,
Bah,
d'après ce que j'ai
l'autre.
compris, l'une d'elles sort avec le frangin de Sarkozy qui a deux fois son âge.
Ah ouais.
C'est
Logique.
assez terrifiant.
L'autre solution est de remonter dans le temps et de te placer, toi jeune, dans une série télé quelconque et toucher des droits
Voilà.
par la suite.
Ah ouais, c'est une pas mauvaise idée. J'irai dans Doctor Who, tiens.
Pas sûr que ce soit là où tu gagneras le plus de pognon. Mais
Ouais,
bon.
c'est pas faux.
Continuons avec des projets indés adaptés à l'écran. On parle d'une adaptation de Who is Jake Ellis?
Oui, question qu'on se pose encore, puisque la
Chez la
première
Fox.
mini-série n'apportait pas la réponse.
Ah, c'était vachement bien. Mais après, tu
C'était
as.
bien, mais la fin était une déception, puisqu'on n'avait aucune, on n'avait pas vraiment la résolution du mystère principal.
Oui, mais il y a une mini-série suivante qui s'appelle Where is Jake Ellis?
Oui, que je n'ai pas lu.
Ah bah voilà, peut-être que la réponse est dedans, Sam.
Ben, je sais pas, parce que ça fait un moment que j'ai vu le premier et le deuxième épisode sortir, et puis j'ai plus rien vu après, donc.
La prochaine mini-série, ce sera certainement When is Jake Ellis?
Il me semble doute, oui.
Mais je crois qu'elle est finie, hein, la mini. Elle a dû sortir. J'ai un doute. J'essaye de regarder en vitesse en même temps si je trouve l'info, mais je crois qu'elle a été terminée, qu'elle n'a pas subi de retard.
Ah bon, on va tant mieux.
Quoique, non, pas sûr. J'en trouve que trois. Bon, en même temps, je vais pas passer mon émission à chercher. On a quand même un programme très très chargé. Donc rappelons que c'est une série de Nathan Edmondson avec des dessins de Tonsi Dzongic. Ce serait David Yates qui serait le réalisateur, qui avait fait du Harry Potter notamment.
Ça me fera peut-être l'occasion de découvrir cette série que je n'ai pas lue.
Alors pour le moment,
Ben, il y a le premier tome qui est sorti en VF,
ouais.
donc tu peux aller voir.
Ok.
Et pour le moment, il n'y a pas de scénariste attaché au projet, mais en tout cas, ça intéresse énormément la Fox. Et ça peut faire un bon film d'espionnage, si c'est bien foutu.
Oui. Mais s'ils apportent la réponse.
La réponse ne
Pardon.
sera pas donnée vu qu'il y aura un deuxième film.
Oui, il y aura la suite. Where? Restons dans le monde de l'espionnage puisque Ed Brubaker serait en passe d'adapter Coward, le premier arc de Criminal, en film.
En fait, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, faut quand même le dire, ça fait plusieurs années. Depuis qu'en fait la première mini-série est sortie, les studios ont optionné le machin dès le début. Et ça a connu l'avis de la plupart des comics indés, c'est-à-dire que ça a été optionné, ça a été très chaud pendant 3 semaines, et puis les studios sont passés à autre chose, et puis 2 ans plus tard ils se sont réveillés, ah ça peut-être bien d'adapter ça, et puis ils se sont rendormis dessus, et là manifestement ils viennent de nommer un nouveau réalisateur sur le projet.
Development Hell, comme beaucoup, beaucoup,
Voilà,
beaucoup de
oui.
projets.
Et surtout le manque de management, surtout c'était ça.
Ouais.
Je disais Joker parce que, pareil que pour Jack Ellis, c'est un truc que je n'ai pas encore lu.
Il faut que tu le lises parce que c'est un des meilleurs boulots d'Ed Brubaker. Et je ne suis pas un des plus grands fans d'Ed Brubaker, donc c'est pour dire.
Ed Brubaker et Sean Phillips en tandem, rappelons-le, sur cette superbe série de mini-séries, puisqu'il y a
Très très bonne.
quatre volumes.
5. 6 même.
Non, il n'y en a que 4. Il y a
Non, il y
deux
en a
arcs dans le
6.
premier volume, deux arcs dans le second, et
Non, il y a
ensuite deux
Coward,
mini-séries.
Lawless, The Dead and the Dying, Bad Night.
Oui, non, mais c'est que tu comptes en
The Sinner,
arc, mais
c'est
moi je.
The Last of the Innocents.
Tu comptes en arc, mais moi je compte en série. Et Criminal, le premier volume faisait 10 épisodes, le deuxième en
Ah.
faisait 8 ou 9, avec deux arcs à chaque fois dans les deux premiers volumes, et
Mais c'est
ensuite
pas
c'était
grave,
des
c'est moi
mini.
qui ai raison de toute
Donc ça a été optionné par le studio. Je recherche l'info, je ne le trouve plus. Hunting Lane, pas Hunting Lane Films apparemment,
Ça me dit rien du tout.
qui
Non
sont
plus.
derrière un film de 2006 qui s'appelle Half Nelson hein, et Blue
C'est du lit.
Valentine en 2006, avec
Ah
tous les deux
oui.
avec Ryan Gosling.
C'est pas vraiment une référence.
Donc il y a peut-être des chances que ce soit Ryan Gosling pour le rôle du personnage principal.
Ah non,
Ça
oh.
reste une des rumeurs possibles, effectivement. Rappelons d'ailleurs que l'autre série de Brubaker et Phillips Incognito avait été optionnée par la Fox en 2010 et on attend toujours la suite de cette histoire. Enfin, de cette histoire de film, parce que la mini est terminée hein, depuis bien longtemps.
La deuxième, oui, mais on aimerait bien voir la troisième, vu la conclusion de la deuxième.
Ouais, peut-être pas un assez gros succès pour Incognito.
Non, je pense que surtout que là, en ce moment, ils sont sur Fatal, qui est leur gros carton du moment. Donc,
Preuve
je
en est
pense qu'ils
puisque
se
c'était
concentrent,
une série d'abord en 12, puis en 14, puis en
puis en
18,
20.
puis en ongoing.
Voilà. Jusqu'à ce que ça marche plus, en gros.
Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que j'en ai marre, en fait. Continuons avec un autre film, cette fois-ci, un film qui s'éloigne de l'univers des comics, mais qui est tout à fait geek, puisque c'est le film World of Warcraft, longtemps annoncé. On avait attaché Sam Raimi au projet pendant très longtemps, qui finalement est passé à autre chose et qui avait déclaré que les studios Blizzard faisaient n'importe quoi et qu'il en avait ras-le-bol d'attendre et qui s'est donc barré du projet relativement rapidement. C'est bien dommage parce que Sam Raimi sur WoW, ça aurait été magnifique. Eh bien, ça y est, on a enfin une date de sortie. Ça a été annoncé par Blizzard. Ce sera le 18 décembre 2015.
Oui, bien sûr, on a passé de trucs en 2015.
Oh, fin d'année pour un film d'Heroic Fantasy, ça reste cohérent avec les sorties de Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc.
Sauf que je crois qu'il y a Star Wars qui sort aussi à cette époque, donc si tu veux mourir, c'est la bonne date pour sortir un film.
Ouais, mais en fait, Disney apparemment était revenu sur le fait de l'avancer en fin d'année, enfin de le décaler en fin d'année, ils étaient revenus sur le fait de le ressortir pendant l'été. Bon, reste à voir, c'est une première date annoncée. Le réalisateur du film, alors déjà le budget dépassera les 100 millions de dollars. Ce qui est quand même rassurant. Enfin, il faudra voir ce qu'on en fait aussi. Et le film sera réalisé par Duncan Jones. Et il pourrait y avoir, ça reste de la rumeur, Colin Farrell et Paul Dano dans les rôles principaux. Ok. Ça laisse vraiment un vieux blanc. On
Wow,
part.
j'en ai rien à foutre, donc
Moi, je connais que Warcraft 3 et je suis pas très fan. Enfin, je suis pas très MMO, donc pourquoi pas, mais pas plus que ça.
Oui, donc t'es tout seul, Steve.
Dans l'histoire, pour moment, qui est, pareil, encore une fois, à prendre avec des pincettes, on parlerait de voyage dans le temps et de monde extraterrestre, donc peut-être quelque chose à voir avec les Draenei, pour ceux qui jouent au jeu ou qui y ont joué et qui savent de quoi je parle. Voilà. La suite, c'est des petites actus en vrac, les ratings, enfin Les audiences, voilà, je fais le blanc, c'est le blanc à la Jean-Claude Van Damme. Les audiences de Agents of S.H.I.E.L.D. pour la deuxième semaine subissent une grosse baisse, puisqu'il y a une baisse de 34% par rapport à la semaine d'avant, 8,4 millions de téléspectateurs en live.
Oui, mais ça s'est arrangé par la suite, puisque on a eu les chiffres depuis à 3 jours. Donc en fait, la chute n'est pas si importante que ça, puisque je crois avoir vu que le nombre de personnes qui avaient regardé à 3 jours, c'était à plus 4 ou 5 millions. Donc,
oui, là on parle simplement des téléspectateurs live sur la diffusion.
Sur le jeu en direct, quoi.
Ouais, voilà. Donc 34% de moins par rapport à la semaine d'avant. Il faut rappeler que cette semaine-là, en face, on avait bien sûr NCIS, qui sera toujours en face de toute façon, mais c'est que sur cet épisode-là, c'était le départ de Côté des Pablos de la série. Désolé pour le spoil, mais enfin, en même temps...
Ça fait des mois qu'on le dit, donc...
Ça fait des mois qu'on le dit, et qui, eux, ont tapé à 19,2 millions de téléspectateurs, soit le double.
Mais à titre de comparaison, The Blacklist, qui passe le lundi, a connu une baisse de 5%. Donc quasiment rien.
Ce n'est pas étonnant, j'ai vu le premier épisode cet après-midi, j'ai pris une claque dans la gueule. Voilà.
Oui, c'est énorme.
C'est une claque dans la gueule et un coup de latte dans les couilles, en fait, que j'ai mangé. Les deux.
C'est l'une des séries de la rentrée pour moi.
Et ouais. Moi, j'ai
attendait beaucoup, ils n'ont pas déçu.
Moi, j'ai vu le deuxième épisode, justement, d'Agents of S.H.I.E.L.D. Et moi, j'ai bien aimé ce deuxième épisode. Et j'attends la suite. Alors, avec impatience.
Et moi, je vais le revoir parce que je l'ai vu. Je me suis tellement fait chier dans les deux premières minutes que j'ai décroché du truc, je l'ai regardé que d'un œil, je n'ai rien compris à l'épisode et je me suis ennuyé. Donc faut que je le revoie. Tout le monde dit qu'il est vachement mieux. Faut vraiment que je le revoie de façon vraiment concentrée, parce que alors là, du coup, au bout de 2 minutes, je faisais autre chose. Et voilà, je faisais plus autre chose. En réalité, je préparais le conducteur de cette émission pendant que je regardais.
En plus, il y a des bonnes petites références bien cachées, donc ça fait plaisir.
Je les ai même pas vues, puisque de toute façon, je ne regardais que d'un œil.
Oh, pourtant, il y en a une qui est au tout début.
Ah oui, non, mais je... Voilà. J'ai juste vu cette fameuse scène avec le... Enfin, de ce que je me rappelle vraiment, on avait Nick Fury, ça avait été vachement teasé que Nick Fury serait là. C'était la com de la semaine. Une apparition qui m'a fait... plutôt pitié qu'autre chose, mais bon, voilà. Et c'est surtout la scène du bateau gonflable. Je ne dirai rien, mais alors ça,
elle est énorme.
C'est ridicule.
C'est absolument ridicule, quoi.
Ah non, moi,
c'est
ça m'a fait marrer. C'est mort.
Ah
ouais.
Ah bah non, enfin, ça tient pas debout, quoi. Ça peut pas tenir debout, ça. Bah bon. Remarque, ce sera pas pire que la chute façon Indiana Jones. Tintin, voilà, ça c'est fait.
Ça me dit rien, donc.
Bah la chute Indiana Jones avec le bateau, quoi. Rappelez-vous, Indiana Jones 2.
Je vais paraître un culte, mais je n'ai pas vu Indiana Jones 2.
Oh non, c'est pas possible.
Je suis jeune.
Attends,
hein.
C'est pas une raison.
C'est Temple of Doom dont tu parles, ça fait un moment que je l'ai pas vu.
Bah, cette scène où il saute de l'avion dans un bateau gonflable et qui tombe et que tout va bien.
Ah oui.
Ah oui, oula, oui.
C'est aussi con. C'est pas la même chose, mais c'est aussi con. Voilà. Apparemment, Jim Steranko, qui se plaignait du premier épisode, trouve que le deuxième épisode, il y a une véritable amélioration.
Bah oui.
Bon, bah oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même que je le revoie, ce deuxième épisode, parce que là, franchement. Et moi, je ne garde pas un bon souvenir.
Est-ce que vous pensez que Coulson est le personnage qu'on a longtemps teasé, à savoir Vision ?
J'en sais rien. Peut-être, c'est possible.
Non, je pense pas. On le voit saigner dans l'épisode, donc non.
Pour moi, c'est un LMD, mais... Ce qui n'empêche pas... Un LMD, d'ailleurs, peut saigner.
Ouais.
On verra bien. En tout cas, Peggy Atwell, qui joue donc l'agent Carter, notamment dans ce fameux one-shot que l'on avait sur le Blu-ray de Iron Man 3... dit qu'elle irait bien faire un tour dans la série.
Bah, sans mes poils.
Je pense qu'elle veut un chèque.
Ouais, je pense aussi.
Continuons avec les actus en vrac. Le trio de scénaristes pour Amazing Spider-Man reviendra pour le troisième film. À savoir Alex Kurtzman, Roberto Orci et Jeff Pinker. Donc moi, quand il y a Kurtzman et Orci, en général, je me méfie, ça veut dire incohérence à gogo.
Oui, bah je regarde Sleepy Hollow qu'ils produisent et écrivent, c'est une sombre merde, donc...
Tu continues de regarder ?
Bah, le problème, c'est qu'ils ont annoncé l'arrivée de John Noble au cast. Donc je suis obligé de regarder,
c'est un peu chiant. Je comprends. Et enfin, nous allons terminer notre partie Screen News, en tout cas pour la partie ciné, avec ciné et TV, avec les Simpsons et ce fameux générique réalisé par Guillermo del Toro.
Oui, qui est une pure tuerie.
Oui, donc l'épisode, enfin le générique du Kutch Gag, réalisé par Del Toro, avec nombre de références à ses films et aux maîtres de l'horreur. Et je dois avouer que ça m'a scié, parce que moi qui d'habitude ne suis pas très très fan des Simpsons, bah ça m'a donné envie de voir l'épisode. Et bah malheureusement, je l'ai pas fait. Et
Je l'ai vu, tu rates rien.
d'accord. Mais franchement,
C'est à l'image des Simpsons depuis 6, 7 saisons où c'est plat. C'est plat, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de. Voilà, c'est. Ils nous ressortent encore et encore les mêmes vannes et ça, voilà. Ça fait plus d'effet depuis 10 ans et. On regarde ça parce que je sais pas trop pourquoi en fait.
par
C'est,
nostalgie.
je crois que c'est hypnotique, c'est surtout pour ça.
Habitude, ouais.
Mais en tout
Beaucoup
cas,
d'habitude.
il vaut le coup de le voir juste pour essayer de trouver toutes les
Oui.
références au Monstre Universal, au film de Del Toro, au maître de l'horreur. Donc, ça vaut le coup de le voir.
Un générique assez long hein, qui fait presque 3 minutes,
Ouais, mais qui vaut le coup vraiment.
qui vaut vraiment le coup, ouais, effectivement. C'est la bonne surprise de l'épisode.
La seule.
Je sais pas, pareil, je n'ai pas vu l'épisode parce que
Mais
j'ai bien longtemps
je
que
l'ai
je ne
vu, il n'y
regarde
a
plus les
rien dedans, donc.
Simpsons. Je regarde un épisode quand je tombe dessus, mais voilà, ça
Oui, moi
s'arrête là.
aussi.
En tout cas, non, vraiment sympa de la part de Del Toro d'avoir fait ce petit truc. Joli petit coup de com' de sa part, joli petit coup de com' pour les Simpsons, et surtout, gros plaisir pour nous. En tout cas. On va passer à la partie jeux vidéo maintenant avec un teaser très mystérieux de Dark Horse et CD Projekt Red. Une petite vidéo d'une trentaine de secondes qui nous présente pas mal de licences du jeu vidéo de Dark Horse et notamment leur licence The Witcher dont le 3 va sortir en 2014 sur les prochaines consoles, les nouvelles consoles next-gen. Alors, quel est ce projet? On en saura plus à la Comic-Con de New York qui se tiendra donc le week-end prochain. Où on risque de faire une émission qui va nous faire très mal à préparer, soit dit en passant. Franchement, intriguant. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très intriguant. Et personne de vous n'a regardé le teaser, j'imagine.
Non. Oh, jeux vidéo, moi non.
Dark Horse,
Bon.
c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, donc
Mais c'est pas possible. C'est un teaser de 26 secondes et vous le regardez même pas. Bouh. Bouh. Non, mais enfin, voilà. On sait pas du tout. Ce vers quoi c'est. En tout cas, Dark Horse détient déjà pas mal de licences de jeux vidéo, notamment Mass Effect, Dragon Age, Legend of Zelda, Tomb Raider ou encore Halo, maintenant, puisque c'est eux qui ont récupéré la licence Halo. On sait pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce que c'est, ça va être se tendre, pardon, vers les jeux vidéo? Est-ce que ça va se tendre vers les comics? On ne sait pas du tout. On saura ça la semaine prochaine. En tout cas, moi, ils m'ont vraiment intrigué avec leur annonce. Et je pense que c'était le but, de toute façon. Passons à l'autre annonce jeu vidéo que nous avons cette semaine. C'est Valentin qui nous parle de l'Injustice Ultimate Edition.
Oui, donc c'est la news nous prend pour des vaches à lait. Donc vous serez heureux d'apprendre qu'il va y avoir une édition Ultimate de Injustice, avec bien sûr tous les DLC disponibles le 29 novembre sur PS4, PS Vita, PS3, Xbox 360 et PC. Donc moi qui ai pris la version collector avec la super statue, je me sens un peu floué et ça m'énerve. Donc c'est vraiment la minute on nous prend pour des vaches à lait.
À savoir qu'en plus, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas d'autres DLC qui sortent d'ici là, donc que cette édition Ultimate soit obsolète bientôt.
Surtout qu'il reste deux emplacements, il me semble, pour la sélection des personnages. Donc il y a de très fortes chances qu'il y ait une nouvelle arrivage de DLC avec des nouveaux personnages. Et donc c'est un peu fort de café, je trouve, de Netherrealm de faire ça. Mais bon, c'est justifié parce que ça va se vendre de toute façon. Donc
Et ouais, bah ouais, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Injustice sur le tard parce que certains n'y croyaient pas et donc l'ont acheté quand ils ont vu les reviews et le fait que le jeu marchait autant et bah certains étaient peut-être dégoûtés de ne pas avoir les DLC. C'est un moyen de pouvoir avoir les DLC, certes, à pas cher. Bon.
Mais le jeu
Reste à
vaut le
voir, hein.
coup, mais ce qui m'embête,
Si on aime les jeux de baston, ouais.
c'est ouais, si on aime le jeu de baston, si on a un pote qui vient à la maison, on lui dit tiens, viens te tataner la gueule et voilà, une petite injustice et ça fait plaisir. Mais ce qui est chiant, voilà, c'est les DLC, le season pass, les trucs comme ça. Là, j'ai la musique de ABBA de Money Money qui est dans la tête et c'est bien ça, quoi. C'est Money Money Money.
Effectivement, moi, de toute façon, les jeux de baston, c'est pas mon truc. C'est pour ça qu'Injustice ne m'a jamais plu. Voilà, tout simplement. Allez, c'est tout pour notre partie Screen News. On va maintenant passer au gros sujet de la semaine. Le gros sujet, c'est bien évidemment les ventes du mois de septembre, les ventes comics. Eh bien, on a un top qu'on attendait avec un décès bien devant sur le marché, avec notamment ses covers 3D et surtout le prix que ça leur a rapporté, puisque DC se place en dollars chers à 40,39%, et pour comparaison, Marvel est à 28,49 seulement.
Oui, mais c'est à. Je trouve que c'est vraiment à relativiser le fait que DC soit en tête ce mois-ci, puisqu'on a le nombre de comics sortis. Et en fait, quand on compare, on se rend compte que DC a sorti deux fois plus de titres que Marvel. Donc en fait, ils n'arrivent vraiment à surpasser Marvel qu'en doublant leur production.
Et puis dans le top 5, on a quand même trois titres Marvel, à savoir les Crossover, Infinity et X-Men Battle of the Atom.
En termes d'unités vendues, DC vend 45,17% de toute la production. Marvel ne fait que 29,83%. Clairement, ils sont devant de toute façon, que ce soit en dollar share ou en unit share. Moi, je m'attendais à ce que le dollar share soit bien devant le unit share, finalement.
Mais comme je l'ai dit, c'est juste une question de maths, en fait. Tu sors plus de titres, tu vends plus de tout machin, c'est tout.
Oui, statistiquement, au niveau des probabilités, ça paraît logique. En ce qui concerne Image Comics, Image se classe 3e avec 7% d'unités vendues, ce qui représente 6,87% de la part de dollars du marché.
Oui, ce qui est habituel, j'ai
dit. IDW place à la 4e place avec 4,12% d'unités vendues, Dark Horse en 5e avec 4,04%. S'ensuit Dynamite, Boom, Eagle Moss est dans le top avec 0,15%. Je sais pas trop pourquoi ils le considèrent dans le top des comics, sachant qu'ils vendent des statuettes, mais bon.
Et puis Valiant qui est vraiment très très bas à 0,87.
Mais il sort beaucoup moins de titres.
Valiant il sort 5 titres. 5 ou 6 titres par mois. Donc avec 5 ou 6 titres par mois.
Ils vendent 10 entre 10 et 15 000 exemplaires. Donc c'est stable par contre. Voilà.
En ce qui concerne les rapports avec l'année précédente, quand on regarde septembre 2013 par rapport à septembre 2012, on a une augmentation quand même de 33,90% de dollars. Enfin, de bénéfices en dollars et 26,97% d'unités vendues supplémentaires. En ce qui concerne
là
les
aussi,
comics.
Plus de comics vendus, et je pense que cette fois, le fait que les ventes d'essai soient liées au crossover du moment a dû aider aussi.
Et pourtant, l'année dernière, à la même époque, au mois de septembre, nous avions le Zero Mans.
Oui, mais il n'y avait pas de crossover.
Il n'y avait pas de crossover, mais on avait le Zero Mans, qui était le premier anniversaire. Étonnant qu'ils en aient vendu à ce point plus, je trouve.
Bah oui, mais là aussi, c'est à relativiser. Puisqu'effectivement, s'il y a une bonne tenue des titres tie-in Forever Evil, la mini en elle-même ne démarre pas de manière extraordinaire, puisque le premier épisode se vend à 140 000 exemplaires. Ce qui est très moyen pour un premier épisode de crossover.
Je vais terminer très vite sur les comparaisons avec l'année précédente. Ce sont les graphiques nouvelles qui subissent un petit peu le fait qu'il y ait eu beaucoup de comics, puisque certes, en part de dollars, on augmente de 1,76% par rapport à l'année dernière, mais en termes d'unités vendues, on baisse de presque 3%.
Mais c'est un peu le yo-yo, vraiment.
En même temps,
les ventes de TPB, c'est toujours comme ça.
Plus de comics sur le marché, forcément moins de graphiques nouvelles vendues, moins de graphiques nouvelles et TP. Ça paraît tout à fait logique. On va passer au top à proprement parler. Hein, comme on l'a dit, Forever Evil se classe premier. 140 000 à peu près.
Ce qui, pour moi, est assez décevant, puisqu'en fait, c'était les niveaux de vente du premier épisode de Fear Itself.
Ouais, mais alors,
qui n'avait enthousiasmé personne.
Je pense aussi que ça reste à relativiser, étant donné que DC sortait d'un crossover. Pour aller dans un autre crossover. Je pense qu'il y a aussi le fameux event fatigue que DC prend en pleine gueule là.
Il y a aussi, par exemple, tu peux comparer à Infinity, sorti le mois précédent, qui avait commencé à plus de 200 000 exemplaires.
Oui, mais Infinity ne venait pas juste après un crossover. C'était pas un crossover qui en amène un autre. La solution qu'a choisi DC et qui pour moi reste une très mauvaise solution. Surtout quand on te tease pendant 2 ans que ce fameux crossover Trinity War, je l'ai appelé Trinity of Evil, j'ai fait des mélanges de crossover, Trinity War était soi-disant le gros truc qu'on attendait depuis le premier numéro, et finalement le gros truc c'est pas ça, c'est Forever Evil. Je pense qu'il y a eu des déçus qui n'ont pas forcément été voir.
Alors que pourtant dans le top on a quand même des crossovers, donc c'est étonnant de voir que le crossover de chez DC fait moins qu'Infinity. Mais il y a quand même en deuxième, troisième, comme j'ai dit, Infinity et X-Men Battle of the Atom, quoi. C'est étonnant que le crossover continue de faire vendre alors que Forever Evil baisse, entre guillemets.
Bah, il baisse pas puisque bah, c'est le premier numéro, donc on
Oui.
n'est pas vraiment. On verra surtout quel est le taux de rétention entre le premier et le deuxième épisode. On verra si les ventes sont stables ou si elles ont augmenté ou si elles ont baissé. Et ça, c'est ce qu'il y a de. Il y a de plus fortes chances d'arriver, c'est que les ventes aient baissé. Infinity vend moins, certes, mais il y en avait deux ce mois-ci. Donc deux fois 125 000, grosso modo.
Ça aide.
Forcément, Marvel rapporte avec Infinity. Battle of the Atom, comme tu disais, se classe troisième avec ce fameux premier numéro spécial. Et ensuite, on tape dans le Villain Month pur, puisque nous avons à la cinquième et sixième place deux Batman, celui sur le Joker et celui sur le Riddler,
Ouhou!
qui tapent
Les
tous les deux
deux
à
débuts.
plus de 107 000.
Des gens qui vont pas revenir, je pense.
Ouais. Le Batman Bane se classe à la huitième position avec 101 000. Donc les jeux, non pardon, avec 95 000, donc les gens commençaient peut-être déjà à être échaudés, hein, puisque c'était le 23.4, c'était la fin du mois. Et en septième place, entre ces Batman-là, se classait le nouveau démarrage de la série Avengers, Mighty Avengers, qui vend 101 000. C'est plutôt pas mal, je trouve.
C'est plutôt pas mal, oui, effectivement.
Il y a sûrement l'effet du numéro 1 qui a dû contribuer à amener des gens.
Certes, mais avec un scénariste comme Ali Wing, qui n'est pas un scénariste très connu aux États-Unis, c'est étonnant. Alors certes, Mighty Avengers, qui est déjà un titre relativement connu, s'est lancé pendant Infinity, ça porte tag Infinity, mais il y a des gens quand même qui sont pas très connus dessus. Et puis, ce sont des personnages, à part Luke Cage et Spider-Man, ce sont quand même des personnages relativement peu connus. Donc, je trouve que c'est un bon démarrage, quoi.
Avoir au numéro 2 et au numéro 6 et au numéro 12.
Si numéro 12, il y a. Même
Ouais.
si moi j'y crois, honnêtement
Ouais,
moi
moi
j'y crois
aussi.
parce que
Je pense
ça me
aussi,
paraît
mais ça
faible.
m'étonnerait qu'on atteigne l'épisode 20.
Alors je sais pas,
Ce
faut
sera
voir quel sera le
relaunché.
plan.
Oui, il y a de bonnes chances que ce soit relaunché avant.
Ah non, pitié. Neuvième place, le Avengers numéro 19, Tie-in Infinity, pas de grande surprise, qui vend 92 000.
En hausse par rapport à d'habitude, parce qu'en général, les titres Avengers se vendent plutôt aux alentours de 75 000.
Effet Infinity.
Ouais.
Et à la dixième place, nous avons encore du Batman, le quatrième Batman du mois, hein, donc le 23.3, c'est le Pingouin, celui qui a le moins bien marché, qui a fait presque 90 000 en vente. C'était pas celui
Pas de
avec
commentaire.
Podransky au dessin?
Je crois, oui.
Mais je crois que c'est un artiste qui n'est pas forcément très apprécié au niveau mainstream.
Bah, sur des super-héros, je trouve qu'il est pas à l'aise. Sur des, voilà, c'est pas son truc.
La suite du top, à la 11e place, le Super Spider-Man 17, qui continue de bien se vendre, à presque 90 000 exemplaires.
Oui, je crois que ça, il y a eu une hausse en fait par rapport au mois précédent. Parce qu'on voit que le numéro
18.
précédent était plutôt aux alentours de 75-80 000. Et là, je pense que la hausse est due à l'intervention du Spider-Man 2099 dans le film. Ça a attiré des gens.
Le Super Spider-Man 18, quant à lui, se classe 13e avec 80 000, mais rappelons qu'il est sorti en fin de mois, donc c'est toujours pareil, il a eu moins de temps d'exposition. Et entre les deux se classait le All New X-Men numéro 16, deuxième partie de ce Battle of the Atom.
Ensuite, on trouve un numéro 1, à la 14e place, le Star Wars, The Star
Étonnamment,
Wars,
étonnamment,
à
premier titre
78 000
indé.
exemplaires.
Premier titre indé, finalement la com a bien marché. Le scénario original qu'avait prévu George Lucas sur Star Wars, donc ce truc qui s'appelait The Star Wars, a vraiment bien fonctionné. 78 500 exemplaires. À mon avis, Dark Horse n'a pas fait ce chiffre-là depuis des années.
Ouais.
L'ont-ils fait un jour d'ailleurs?
Et le second.
Bah, le lancement de Buffy saison 8, je pense.
Et le second titre indé, c'est pas surprenant, c'est Saga qui se classe à la 26e
C'est Walking
place.
Dead.
Non, c'est Walking Dead qui se classe en
Ah
19e.
oui, mince, pardon.
70 000
Avec
exemplaires,
70 000
juste stable.
exemplaires. Ouais. Mais
Pardon. Mais il y a un arc qui commence.
Image se fait battre par Dark Horse, c'est une situation assez inédite quand même.
Ouais, mais je pense que Walking Dead sera en tête en octobre, puisqu'il y a le 10e anniversaire du titre, début de nouvel arc au 115, et il y a 10 couvertures variantes.
Oui, et puis on va avoir deux épisodes par mois en plus, hein.
Voilà, oui, donc.
Et on trouve à la 15e place le premier titre non Batman du Villain Month, c'est le Justice League Darkseid, le premier, donc celui qui a eu le plus de temps d'exposition, qui ne ramène que 78 200. Je
Qui n'était pas un épisode très bon en plus, donc.
Qui n'était pas un épisode très bon, certes, mais je trouve que c'est quand même une sacrée claque, puisqu'en fait, les seuls épisodes qui se sont vendus, comme d'habitude, ce sont les Batman, quoi.
Ouais, il y a un écart entre le Batman et le reste assez. Mais je pense que le Batman fonctionne encore mieux en ce moment, parce qu'il y a un run, celui de Snyder, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais qui marche.
Mais oui, c'est
fonctionne auprès
ça.
des gens. Et comme il y a une tête de pont qui fonctionne et que les autres types sont pas mauvais, plus le détective comique de John Lehman n'est pas mauvais, le Batman et Robin de Peter Tomasi est très bon. Donc voilà, il y a une réunion de plusieurs titres, de bons titres Batman en même temps, donc je pense que ça tire tout le truc.
Notons le Guardians of the Galaxy numéro 6 qui se classe 20e avec 69 000 ventes alors qu'il est sorti relativement en fin de mois, c'est plutôt pas mal.
Oui,
Même
c'est
si
pas mal, ça tient bien.
ça reste une baisse quand même.
Comparé à Nova qui est 75 ou...
Et ouais, Nova qui
qui est
s'est
très
pris une
très
claque
bien.
hein, depuis le départ de Jeff Lobb et Ed McGuinness.
Ouais. Qui est plongé et qui, je pense, sera annulé d'ici l'épisode 20-25.
Ouais, bah si Guardians of the Galaxy pouvait annuler avec, si c'est pour voir ce qu'on voit en ce moment, c'est pas la peine, ils peuvent
Ouais.
l'annuler tout de suite. Donc Saga se classe 26e, hein, comme tu le disais, Valentin,
Ouais.
55 000 ventes, c'est pareil, ça reste relativement stable.
Il est très bon comme truc.
À noter Kick-Ass 3, toujours dans le top, enfin se classe à la 43e place et vend quand même 45 000 exemplaires.
Jupiter Legacy qui est juste derrière, 43 000 exemplaires. Après 4 mois de retard, mais c'est pas grave.
Il y a aussi
Oui,
les...
non, mais bon, ça marche.
Il y a aussi les Powerpuff Girls à la 50e place. C'est très étonnant.
Oui, non, mais le retour de Powerpuff Girls chez IDW qui vend presque 40 000. Plutôt pas mal pour un retour sur une licence qui n'a plus beaucoup d'exposition aujourd'hui, quand même. Finalement, pas mal de nostalgique. Le
Une
Sex
sexe
cri...
criminelle.
Le Sex Criminals, ouais, voilà, de Matt Fraction débute à la 54e place, 37 800 exemplaires. Pas un mauvais démarrage hein, pour une série Image.
Oui, très bon même. Parce qu'en général, ça démarre beaucoup plus bas.
Voilà, bon, on va pas faire le top en entier, comme d'habitude, hein, il y a des titres qui sont dans les tréfonds du classement. On a, bon, allez, le Justice League Dark Eclipso, mais en version standard, hein, parce qu'on a quand même les versions standard, qui vend
Ouais.
16 000. Je ne l'ai même pas vu passer en version normale. Bon, enfin, de toute
Et
façon.
puis on a les futures séries bientôt annulées, je pense.
Ouais.
Dans pas longtemps, le Captain Marvel, qui est 134e et se vend 22 000 exemplaires, qui est juste devant le Scarlet Spider, qui lui est annulé. Donc ça donne une idée. Avengers Arena, qui est encore plus bas.
Alors
Voilà,
pourtant la
donc
série est
on
bonne.
a une idée des.
Moi, Avengers Arena va s'arrêter, on le sait aussi. Hein.
Astonishing X-Men qui s'arrête aussi à 21 000 exemplaires, alors que X-Men Legacy continue, alors qu'il est à 20 000 exemplaires.
Ouais, mais c'est un pari, je pense qu'ils ont
Venom
fait un
s'arrête juste en
pari.
dessous.
Ouais.
X-Factor s'arrête aussi, donc voilà. Enfin, X-Men Legacy, pour moi, la série ne va pas survivre encore plus de 6 mois, je pense.
À noter que le top de ce mois-ci va jusqu'à la 423e place, qui est Gold Digger, un titre qui continue hein, pour son numéro 203 chez Antarctic Press, qui vend 1824, mais un titre qui continue encore et toujours par le même scénariste. Depuis vraiment longtemps, puisqu'on est au 203e épisode. 423 comics classés. C'est énorme. C'est énorme. On passe au TPB maintenant avec dans l'ordre le. Alors ça c'est quelque chose qui va faire plaisir à Sam. La nouvelle série pardon de Jonathan Hickman sort en TPB, East of West, le volume 1. C'est ce qui remporte la faveur du public pour ce mois-ci, avec presque 10 000 ventes.
Oui, ce qui est un très très bon démarrage. Ça,
Ouais.
c'est
L'effet
pour
du
un
prix
TPB, c'est
aussi.
très bon.
L'effet
Oui,
du
effet de
prix,
prix à
l'effet
10
Image,
euros,
10
10
euros, ouais,
dollars. Ouais.
pour les premiers TPB.
Vous pouvez l'acheter à 8 dollars, à 8 euros.
Deuxième, le Justice League Hardcover volume 3, Throne of Atlantis, qui
Très bon.
vend, et là c'est là qu'on voit la chute entre le premier et le deuxième, puisqu'il vend 5 200.
Ouais, quasiment moitié moins.
On passe de 9 200 à 5 200. Waouh, c'est entre le premier et le deuxième, il y a un véritable écart. Troisième, le premier TP de Star Wars version Brian Wood, In the Shadows of Yavin.
Oui, bon départ avec 5 000 exemplaires.
Non, Dark Horse, ce mois-ci, putain, il cartonne, hein. Nous avons ensuite Walking Dead Hardcover volume 9, suivi du Walking Dead 100 Project, hein, donc celui avec les différentes covers et dont les bénéfices vont à la Hero Initiative.
Bien, Robert Kirkman.
Et ils en vendent quand même 4 700, c'est plutôt pas mal. Justice League volume 2 en TP se classe 6e. Nous retrouvons ensuite Saga volume 1 et 2 en 7e et 8e place. My Little Pony Friendship is Magic volume 2 se classe 9e et vend quand même 4 100. Waouh.
Non, moi ce qui me fait mal, c'est le Edge of Ultron. 19e à 3 000 exemplaires.
Eh ouais, en hardcover en plus, en
En
hardcover.
hardcover, donc il y a des gens qui aiment avoir mal. Hein.
Et encore, il est sorti relativement tard dans le mois, je crois. Il est sorti en troisième
Oh non,
semaine.
tu me déprimes là. Tu me déprimes, Steve.
Mais je crois qu'il est sorti en troisième semaine, hein, de mémoire.
Bon, bah, il ne me
Le
reste plus qu'à aller
Shazam
mourir.
aussi, hein, le Shazam qui est sorti relativement tard dans le mois, se classe 17e par exemple, en hardcover. Pour finir, le dixième du top, c'est le Superior Spider-Man Hardcover Volume 1 qui continue de se vendre avec 4000 exemplaires pour ce mois-ci. Juste en dessous, nous avions quand même le Unwritten Hardcover Tommy Taylor and the Shield at 5 Twice.
Oui, qui arrive donc sur tout le mois prochain.
bah, allez, juste le petit dernier, le 12e. Le Century West, le graphic novel de Howard Chaykin, se classe 12e. C'est plutôt pas mal. Peut-être l'effet du prix aussi, qui n'était qu'à 8$ comparé à certains autres qui sont beaucoup plus chers, mais qui vend quand même 3500 exemplaires pour son mois de sortie. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt un titre qu'ils attendaient sur la durée. En voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le top de ce mois-ci. Un top qu'on attendait quand même, hein.
Oui, c'était, y a pas de surprise, hein. Quand on voyait bien les sorties, le nombre de titres d'essai, enfin, c'était évident.
Ouais. Alors je viens de voir Rat Queen passer, j'ai pas eu le temps de voir la place en remontant ma page.
Bah ça a bien commencé à plus de 20 000 exemplaires, donc pas mal du tout.
Ouais, qui se classe dans les 130, hein, quelque chose
Ce qui est
par là.
normal, mais qui a un bon démarrage. Pour un titre image,
144e.
Ah voilà, merci. Je le cherchais, je n'arrivais pas à le retrouver, parce que quand on voit cette liste gigantesque pour retrouver un titre, ça devient très
Et
compliqué.
comme l'autre, ben comme l'autre aussi créateur honnête de Jonathan Hickman, God is Dead, qui commence bien aussi. 26 000 exemplaires.
Ah ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Alors, on va passer maintenant aux brèves comics et j'ai mon premier lien qui a foiré, donc comme ça c'est bien. On va essayer de faire diversion le temps que je les retrouve. Ce sont les teasers Marvel qui ne sont parus, c'est que cette semaine. Hein, on en avait fait le gros sujet de la semaine dernière. Alors, on a eu encore pas mal de nouveaux teasers. On va commencer avec Extinction, Sam Humphries. Andrea Rojo, ce sera révélé dans le Avengers Panel. Hein. Je rappelle que tous ces teasers sont prévus pour être dévoilés pleinement lors du New York Comic Con qui se tient la semaine prochaine. Donc là, ce sera un panel Avengers, ça s'appelle Extinction.
Sans doute dans la série Avengers AI.
Possible, oui, puisque Sam Humphries et Andrea Rojo.
Ou alors la sorcière rouge va dire No More Avengers.
Oh non, 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 pitié, pitié. Pas encore. Continuons avec Trust, Ali Wing et Lee Garbett. Donc, quelque chose qui va concerner Mighty Avengers dont on parlait tout à l'heure.
Oui, je pense. À moins qu'ils se décident à lancer Heroes of Fire.
Ou enfin, ce serait quand même énorme qu'il y ait les mêmes créateurs sur deux séries différentes.
Oui, surtout que Heroes for Hire, je pense qu'on l'attend plutôt de la part de Bendis. Quand il aura 5 minutes entre ses 18 autres séries.
Enfin, nous avions aussi War avec Chris Yost et Marcus To.
Alors là, ça me fait penser à Scarlet Spider, mais comme la série est arrêtée.
Mais c'est bien possible puisque ce sera révélé dans le panel sur Superior Spider-Man and Friends.
Peut-être une alliance entre les différents, entre Spider-Man 2099, Venom, Scarlet Spider, pour essayer de remettre Peter Parker dans le corps du Superior Spider-Man.
Peut-être, bon,
Je
tout
pense
est
que
possible
plutôt
hein,
ça
de
sera
toute façon.
l'initiative de Dan Slott, hein, cette histoire.
Ouais.
On sait pas trop vers où ça va, mais en tout cas, c'est une des possibilités. Nous avions aussi un teaser qui est sorti cette semaine qui s'appelle Defend avec Alex Scott et Gary Brown révélé sur le panel Humanity and All New Marvel Now panel.
Tu veux dire inhumanité?
J'ai dit quoi?
Humanity.
Ah bah oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, j'ai oublié une lettre.
Donc à ne pas
Enfin.
lire puisque c'est lié au Blood Matrix.
Oh, salaud.
Bah moi ça me, vu la couleur du teaser, ça me fait penser à peut-être une nouvelle série Captain America. Comme il y aura peut-être le film et tout ça qui va pas tarder à arriver. Moi ça me semblerait cohérent.
Ça ou peut-être le Iron Patriot?
Un retour de Norman
À voir.
Osborn?
Puisque rappelons que le Iron Patriot est actuellement dans les pages de Secret Avengers et que Alex Scott est en train d'écrire Secret Avengers. Avec Gary Brown au dessin.
Oui,
Donc
donc à voir.
voilà, hein, c'est une des possibilités. Ça reste encore une fois que des plans tirés sur la comète. On en saura plus le week-end prochain. On continue avec Wrath par Richard Dizanov, hein, sur le révélé sur le panel pardon, Amazing X-Men.
Nouvelle série Wolverine.
Bah, peut-être Richard Dizanov sur du Savage Wolverine.
Ouais.
Oui.
Puisque cette série un peu anthologique, juste pour les auteurs, Richard Dizanov tout seul,
Ça
assez
peut le faire.
surprenant.
De toute façon, ça sera.
Ça fait un moment que je l'ai pas vu dessiner ou même coloriser quelque chose, donc.
Ça sera toujours mieux que les numéros de Jock.
Bon, mais c'est sympa. Il n'y en a que deux, et puis c'est joli à regarder.
On continue avec Overdrive, un titre par Felipe Smith et Trad Moore, toujours dans le panel Inhumanity.
Donc le truc qu'on n'ira pas voir.
Ouais, bah
Bah,
là, franchement, pas de. Moi, j'ai pas du tout d'idée de ce que ça peut être.
ils vont lancer une série avec des voitures un peu à la Transformers.
Ah, pitié, pas le vilain qui s'appelle Overdrive. De toute façon, il est très bien là où il est au casting de Superior Foes of Spider-Man et laissons-le là-bas. Puis de toute façon, c'est prévu pour le panel Inhumanity. Donc, bon. Enfin, Hunted par Nathan Edmondson, pardon, et Mitchell Gerads dans le panel Superior Spider-Man.
Alors là, aucune idée. Tant que j'ai
Ouais.
complètement abandonné le Spider-Verse.
Moi, j'allais dire peut-être la suite de la mini-série Infinite The Hunt, mais vu que c'est révélé dans le panel sur Spider-Man, là, j'avoue que j'ai plus d'idée, là.
On a le Scarlet Spider qui combat actuellement Kraven
Ah.
et dont la série s'arrête. Alors peut-être quelque chose à voir avec Kraven the Hunter. Hunted, voilà. Bon. Ça reste encore une fois une supposition. Et pour terminer, ces teasers, enfin, parce que Marvel nous a vraiment inondés hein, cette semaine, Assassin par Zeb Wells et Mike Del Mundo
Mais
sur
voilà,
le
c'est facile,
panel
Electra.
Superior Spider-Man and Friends.
Voilà, donc ce sera Electra et puis c'est tout.
Electra avec peut-être des Thunderbolts.
Et peut-être même Silver Sable, en fait, vu les couleurs.
Ah oui, bah oui, puisque Dan Slott avait annoncé qu'elle n'était pas morte, donc finalement, donc.
Ouais, bah, oh, je l'ai tué! En fait, non.
Oui, bah, c'était en fait, dès la fin de End of Earth, où au travers de Spider, non, c'était de Madame Web, il indiquait en fait qu'elle n'était pas morte.
C'est bizarre, ça me
Et qu'elle
rappelle
avait
Fear
une
Itself,
grande
ça.
destinée devant elle, donc.
Les morts
Et
qui
oui.
reviennent à la vie très vite, ça me rappelle Fear
Et oui.
Itself.
Non, mais bon, c'était du foutage de gueule. Voilà, le dernier dont on va parler cette semaine, c'est Atonement par encore Nathan Edmondson et Phil Noto. Donc là, ça va sentir très très bon, ça. Et c'est sur le panel Avengers. Oh, putain, ça t'en fait bâiller, Sam.
Ouais,
Peut-être un
parce
rapport
que
avec
Nathan
le trial.
Edmondson, en général, c'est assez chiant.
Oh non.
Peut-être un
Je
rapport
suis
avec
pas
le
d'accord.
trial de la semaine dernière.
Bah, peut-être quelque chose à voir
Bah
avec le
non, le
trial de la
trial, c'était
semaine.
pas Bendis. Trial and Judgment, c'était Bendis.
Ah oui.
Ouais, mais en même temps, trial, judgment, atonement. On est toujours dans cette mouvance-là. Bon, moi, en tout cas, Nathan Edmondson et Phil Noto, je pense que j'irai voir. C'est dans l'univers Avengers, par contre. Donc, encore une série Avengers.
Scarlet Witch.
Ouais, là, justement, Scarlet Witch se prêterait bien à l'Atonement. Au niveau des couleurs, par contre, on passe de l'orange au rouge. À voir, à voir. Bon, bah, en tout cas, voilà un petit peu tous les teasers. Il y en a beaucoup. On va voir quelles sont les véritables intentions des auteurs et des scénaristes. Finalement, le numéro 1 que l'on avait sur les fonds de ces teasers ne sert à rien, puisqu'on a très bien compris que certains étaient liés aux séries où ils étaient déjà avancés. Alors, à moins d'un reboot, mais par exemple pour Mighty Avengers, ça n'aurait absolument aucun sens, étant donné que la série vient de démarrer.
Ce sera un arc, hein.
Donc, pourquoi ce
Pas de
numéro 1
mystère.
derrière? Peut-être juste pour faire parler et mener sur des fausses pistes.
Ils vont peut-être ressortir les points de toile.
Oh
Mais non, mais
non.
c'est ce qu'ils ont fait pour Avengers de Hickman, pour le nouvel arc, ils ont fait aussi un teaser, comme ça. C'était point now.
Oui, et puis alors maintenant on va avoir le point INH aussi. Hein. Donc on a le point 1, le point NAR, le point INH. Bon, ça va quoi. Et
Point now.
le point INH no 1, ça va être génial.
Moi, je dirais le point dans la gueule surtout. Ça ferait du bien. Passons à un autre teaser qui a été révélé, qui n'a rien à voir avec ces teasers-là chez Marvel, mais en tout cas, c'est une grosse annonce. La fameuse série très attendue de George Romero, qui devait faire un projet chez Marvel. Ça s'appellera Empire of the Dead et ça commencera en janvier 2014, dessiné par Alex Maleev, et beaucoup d'infos seront données lors de cette New York Comic Con.
Alors,
C'est quand la date du New York Comic Con?
La semaine prochaine.
je vais prendre un
D'accord, bah tant mieux parce
pari.
que j'en ai marre des teasers.
Je vais prendre un pari, ça va être certainement sur du zombie.
Ah bah de toute façon oui, t'appelles pas Georges Romero, tu vas pas l'appeler pour faire de la romance quoi. C'est
Non, pourquoi pas.
obligatoire. Bah non, mais peut-être tu fais appel à Georges Romero, une légende vivante, pour faire du zombie et faire peut-être essayer de faire revivre ce qui ne marche plus, c'est-à-dire les Marvel zombies, mais d'une autre façon quoi. Capitaliser sur le zombie autrement que Robert Kirkman et sans la licence Marvel zombie qui ne marche plus du tout.
Ah, ce sera peut-être de la romance zombie, on ne sait pas.
En tout cas, dessiné par Alex Maleev, ça peut être très intéressant. On verra en tout cas ce que ça va donner. On aura déjà donc des infos, peut-être aussi quelques premiers visuels lors de cette New York Comic Con. Et puis voilà, je rappelle que ça démarre en janvier 2014. Un projet qui m'intéresse beaucoup, en tout cas.
Pas moi, parce que les zombies.
Moi,
Ouais, mais c'est Georges Romero, quoi.
je regarderai peut-être le premier numéro, voir et puis voir le pitch de la série.
Passons à DC maintenant. DC qui a annoncé eh bien que Forever Evil ne suffisait pas en crossover, Lights Out non plus, le prochain crossover Superman non plus. Bon, alors on va en faire encore un, mais de 18 parties qui s'appellera Forever Evil Blight et qui se passera du mois d'octobre au mois de mars 2014 dans les pages de Justice League Dark, Constantine, Trinity of Sin Pandora et Trinity of Sin Phantom Stranger. Hein. Essayons de sauver les meubles tant qu'on peut.
Oui, une série qui vont bientôt être annulée de toute façon. Et superbe connerie de DC qui a annoncé le crossover plusieurs jours après le Final Order dans les comic shops. Félicitations DC.
Ouais, non, mais c'était même pas teasé sur les sollicitations. Ça a
Beau
été.
DC, quelle coordination, hein,
Oh, mais
vraiment.
ça sent le truc ramassé à la dernière minute.
Oui. Putain merde, les ventes sont pas bonnes. Vite, montons un truc.
It's crossover
C'est vrai que je n'ai pas osé regarder dans le top les ventes de Pandora ou de Phantom Stranger, mais bon, de toute façon, ce mois-ci, il n'y en avait pas. Donc, de toute façon, j'aurais
time.
pas
Ouais.
pu les voir dans le top. Mais voilà, enfin, c'est vraiment pas bon, quoi. Même Justice League Dark est quand même bien en dessous des autres séries de Justice League.
Ouais.
Donc, bah, moi, je suis pas contre le fait d'essayer de lier l'univers magique par un crossover, mais pas au moment de Forever Evil. Enfin, pas rajouter un crossover au sein d'un crossover. Enfin, ça devient vraiment trop compliqué, là. Enfin, je pense qu'ils vont perdre une bonne partie de leur lectorat, à mon avis. On verra. En tout cas, le but, c'est que, bah, pour sauver Zatanna, Constantine va devoir faire des choix. Voilà. Et il va donc s'allier avec Swamp Thing, la Nightmare Nurse notamment, et puis la Trinity of Sin, Pandora, Phantom Stranger et The Question,
Ça devient vraiment une chiffre molle, hein, Constantine, dans l'univers DC.
dont on attend toujours la série. Je pense que ce serait peut-être la série la plus intéressante qui s'appellerait Trinity of Evil, Trinity of Sin, pardon, la série The Question. Mais bon. Et on a aussi un joli visuel avec le spectre. Je dis pas que ça va être mauvais, c'est juste que faire trop de crossover en même temps, ça va perdre le lecteur, quoi. Bon, pas de réaction. Alors, on passe à la suite. Allez, hop, c'est parti. On a aussi appris cette semaine chez DC qu'ils se foutaient de notre gueule, si on n'avait pas encore compris, puisque DC a décidé d'arrêter les backups au sein de leur publication, de ne pas changer le prix de 3,99$, mais en compensation, on aura 22 pages de comics au lieu de 20.
Oh,
Money, money,
commission
money.
généreuse.
Foutage de gueule.
Ouais. On nous prend pour des vaches à lait.
Non mais enfin voilà quoi, clairement là ils se sentent pupissés avec le vilain Mons. Oh putain, t'as vu les chiffres qu'on a fait? Oh, faut qu'on garde les titres en 3,99. Ouais, mais attends, ça demande beaucoup de moyens. Bon, on n'a qu'à supprimer les backups. Ouais, mais ils vont gueuler. Bon, on leur file deux pages de comics. Ouais, c'est bon, allez, hop, on y va. Bien, je viens de vous résumer la réunion d'essai, hein, la réunion éditoriale qu'ils ont dû faire. Non mais
Voilà, mais ils
franchement
s'alignent
quoi.
sur la concurrence, c'est tout.
Oui, non, mais ils avaient une ligne. Enfin, je veux dire, rappelez-vous, hein, c'était The Line is Drawn
All the line.
2,99. Ouais, en 2011.
Oui, mais c'était 2011. C'est
Ou
vachement
2010.
loin,
Non, c'était
2011.
2010, ouais. Oui, c'est vrai, les gens n'ont pas de mémoire. J'avais oublié.
Bah oui.
Non, mais c'est parce que c'est la crise, c'est pour ça.
Ouais, enfin, au bout d'un moment, la crise, elle a bon dos, quoi. Enfin, je veux bien, mais quand même, quoi. Enfin bon, c'est moi. Enfin, franchement, je ne comprends vraiment plus la stratégie d'essai. Là, j'ai beau essayer de chercher, je ne comprends plus.
Stratégie? Non, mais c'est un mot qui n'existe pas, hein, chez DC.
Comme j'ai dit, monnaie, monnaie, monnaie.
Ouais. Passons à l'actualité indé maintenant, et on commence avec Dark Horse qui a décidé de se rebeller contre le système et de changer de distributeur. Il passe de Diamond à Random House pour la distribution pour les bouquins.
Et
Un
du coup.
pari risqué parce que Diamond domine tellement le marché de la distribution que bonne chance.
Ça reste pour les tout ce qui est graphique novel et TPB et non pas pour les comics, mais ils font
Oui,
déjà
alors
quelque
là, c'est bon.
chose. Et ce sera effectif à partir du 1er juin 2014.
Parce que Diamond est beaucoup moins implanté sur le marché des TPB que les autres éditeurs. Il contrôle surtout le marché des mensuels.
Oui, mais c'est un premier pas qui en amènera peut-être d'autres à bouger quand on a une force assez grosse comme Dark Horse. Certes, ce n'est pas Marvel, ce n'est pas DC, mais ça reste quand même une force qui compte. Un choix assez étrange d'un seul coup, décider de changer. Apparemment, ça les intéresserait surtout pour consolider leur réseau de distribution de manga que Diamond a du mal
Oui, ils
à
sont à
faire.
chier sur ce réseau-là.
Voilà, une news qu'il faudra suivre, je pense, parce qu'il y aura peut-être des émules dans les prochains mois.
Peut-être Image et puis les autres éditeurs indés.
On verra. On verra. C'est vrai qu'Image a tendance à vouloir s'auto-distribuer. On le voit bien déjà, ne serait-ce qu'avec le digital. Bon, on verra ce que ça va faire. Des fois, il ne suffit que d'un seul gros qui bouge et puis les autres se mettent à suivre. On parle d'Image justement, un teaser qui est tombé là pendant l'émission, que Sam nous a partagé, une nouvelle série d'horreur par Kirkman.
Walking
Bah juste
Dead,
un
Miss. Possible.
à voir.
Ça s'appelle donc, enfin, le teaser dit simplement New Horror et nous présente Kirkman et Paul Azaceta. On n'en a pas plus d'informations pour le moment.
À voir.
Moi, je sens bien le
À
Walking
voir.
Dead, Miss.
Mais sachant qu'on a un spin-off de Walking Dead qui se prépare pour la télé, hein,
Sur un
peut-être.
autre groupe de survivants, donc peut-être pour le comics aussi.
Peut-être pour le comics, peut-être totalement autre chose aussi. En tout cas, toujours bien sûr publié chez le label Skybound, hein, qui appartient à Robert Kirkman,
Parce que
sous label Image.
s'il y a du fric à se faire, hein, autant y aller.
On passe à Dynamite maintenant. Dynamite qui a annoncé des nouvelles divisions au sein de son groupe cette semaine, et notamment des divisions sur les jouets et sur les jeux. Dynamite qui décide d'augmenter sa ligne avec quelque chose qui s'appellera donc Dynamite Toys et Dynamite Games. Quelque chose
Donc
qu'il voulait
une
faire
manière de.
depuis très longtemps apparemment. Excuse-moi, je t'ai coupé sa main.
Donc une manière de faire un peu plus de pognon sur les jouets. C'est quand même un marché assez rentable.
C'est un marché rentable, effectivement. Un pari osé, peut-être pour Dynamite, qui n'est pas si bien placé sur le marché que ça, mais qui commence à avoir des licences intéressantes, hein, depuis pas mal de temps. Alors apparemment sont prévus pour le démarrage de ces gammes, et notamment la gamme Toys. On a le fameux 6 Million Dollar Man, puisqu'on arrive au 40e anniversaire de la franchise. Tout ce qui est Chaos Comics, avec la réintroduction de Eternal Toys. Chaos Comics, hein, je rappelle, c'est Evil Urny notamment. On a aussi Red Sonja, Army of Darkness et Vampirella qui seraient concernés en tout cas pour le départ de cette division Toys et Games.
Ah, s'ils font une Toys Red Sonja dans le style des ce qu'a fait Kotobukiya, ça peut valoir vachement le coup, quoi.
Bah de même que les Toys Vampirella, ça s'est toujours très très
Mmh,
bien
bah
vendu. Et puis même, enfin franchement, moi je cracherais pas sur une énorme statuette de H, quoi, de Army of Darkness.
oui.
Ce sont des projets qui sont vraiment magnifiques. Bon, on leur souhaite bonne chance. Rappelons quand même que les divisions de jouets et de jeux, en général, fait pas forcément bon ménage. On a en mémoire notamment Hasbro Marvel, hein. Ça a bien marché jusqu'au jour où ça ne marchait plus. Et que ça a foutu tout le monde dans la merde. Mais bon, espérons qu'ils puissent en tout cas s'en sortir. On voit vraiment que l'indé se bouge sur d'autres choses. Ils arrivent peut-être pas à vendre des comics, mais en tout cas, ils essaient de proposer autre chose et... Voilà, ils s'en sortent comme ils peuvent, et ça c'est vachement bien, ça donne de la diversité un maximum. IDW maintenant, qui vend des cartons et des cartons, c'est même des palettes, c'est même carrément des conteneurs complets de My Little Pony, puisque My Little Pony a atteint plus d'1 million en vente.
Voilà,
Mais
au
et
moment où
ça.
les X-Men, ça vend moins de 100 000 exemplaires.
Et
Donc
ça, enfin.
la cabine à suicide, hein, moi j'en veux
Bon,
une.
là, on compte les singles, on compte les graphiques nouvelles, on compte un petit peu tout, mais on ne compte pas le digital dans ces 1 million de copies. C'est énorme.
Mais Sam, c'est normal, l'amitié, c'est tellement magique.
Oh.
Je me traite au cul, moi, ton amitié.
Tu sais où je la mets, mon amitié, moi. Enfin, non, c'est assez impressionnant, sachant qu'en plus, oui, comme je disais, hein, le digital n'est pas compté, mais que y a beaucoup de numéros, enfin, de My Little Pony qui sont dans les top 10 des digital stores, notamment sur le iBook Store, chaque semaine. Donc, IDW a vraiment fait un énorme coup avec cette franchise.
Oui, merci de nous déprimer, les gens.
Bah, il en faut pour tous les goûts, après tout. Hein.
Ouais.
Moi, je suis pas contre, hein. Je m'en fous, tant qu'on me force pas à le lire, ça m'intéresse. je suis très content, voilà. On passe à Dark Horse. Dark Horse qui a annoncé le dessinateur du dernier arc de Conan, écrit par Brian Wood, hein, puisque, je rappelle, Brian Wood avait décidé d'écrire Conan, notamment sur cette partie avec Belit, la fameuse Queen of the Black Coast, une histoire qui devait s'arrêter un jour, de toute façon. Eh bien là, ça y est, ça va s'arrêter. On sait qui est le dernier dessinateur, et c'est Riccardo Burchielli qu'il va retrouver, avec qui il avait coécrit le DMZ, notamment. Mmh. Riccardo Burchielli sur Conan pour le dernier arc. Moi, franchement, ça me donne super envie.
Moi, pas.
Moi, je connais pas, donc Joker.
Bah, c'est très moche.
Oh putain, mais t'es un salaud. Oh, mais c'est incroyable. Oh.
Bah, écoute, c'est vrai, c'est... Faut apprendre à dessiner, monsieur.
Oh, mais horrible, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Riccardo, en plus, est un homme adorable. Enfin, il est vraiment super sympa et il a un talent fou, je trouve, quoi. Bon, enfin bon, chacun ses goûts. Ce sera donc pour les épisodes 22 à 25 qui donc signeront la fin de cette série de Conan. On verra quels seront les plans par la suite de Dark Horse concernant le personnage. Toujours dans l'indé, le retour de Jeff Smith sur une série avec le style de Bone. C'est surtout ça que les gens attendaient. Ça revient en novembre 2013. Ça s'appellera Tuki Save the Humans. Ce serait un webcomic gratuit, surtout.
Ah, cool. Ah, franchement.
Ouais, c'est mal, ça. Hein.
Moi, j'aime bien Bone, donc là, j'allais dire un petit... J'allais checker ça, mais en plus, si c'est gratuit, je vais d'autant plus checker ça.
Ah, webcomic qui donc démarre en novembre, et ce sera une histoire préhistorique. Intéressant.
Oui, très.
Sam ne dit rien.
Ben, pas d'avis, j'ai jamais lu du Jeff Schmidt.
C'est vrai? Mm. Bah alors Sam, qu'est-ce qui se passe?
Bah je peux pas tout lire. Hein.
Non mais attends, c'est quand même un monsieur qui a 10 Eisner Awards et 11 Harvey.
Bah il peut se les mettre où je pense.
Mais... J'entends des trucs ce soir, c'est absolument affreux. Il va falloir que je me lève les oreilles à l'eau de Javel, car oui c'est possible. Je vais faire couler du silite directement dans le canal auditif. Jeff Smith justement est vraiment très actif cette semaine, puisqu'en plus d'annoncer ce projet-là, on apprend qu'il va faire partie du board of directors du CBLDF, le Comic Book Legal Defense Fund. Donc il va rentrer dans les têtes pensantes de ce comité qui permet de défendre un maximum les gens qui ont des problèmes légaux avec les comics et qui n'ont pas les moyens de se défendre, entre autres.
Donc ils rentrent pas autre part.
Mais c'est quoi ce mauvais esprit là? Non mais voilà, hein, vraiment Jeff Smith revient sur le devant de la scène cette semaine, en tout cas deux grosses news qui lui sont attachées. C'est plutôt intéressant, c'est vrai que depuis la fin de Raisol, on savait pas trop où il était passé. Et enfin, on va terminer avec un procès. Je suis désolé. Je n'ai pas eu vraiment le temps de préparer, puisque je suis arrivé en retard pour cette émission, puisque je dormais. ça va mal en tout cas chez Archie, puisque un des membres de la société a fait un procès pour harcèlement, notamment. Et il poursuit pour 32,5 millions de dollars. Mmh.
Non, mais ça fait un moment que ça traîne, cette histoire. C'est une ex-présidente qui était manifestement légèrement maboule. Et les autres membres d'Archie ont commencé à en avoir marre. Ils l'ont viré et maintenant ils lui font un procès.
Nancy Silberkleit s'appelle-t-elle. Voilà. Exactement.
Mmh. Bah, justement, elle crachait un peu la gueule de tout le monde.
À force d'écrire des trucs trop gentils chez Archie, ils en peuvent plus.
Mais non, mais c'est ça, ouais. C'est le paradoxe entre le côté très très brillant, très lisse de Archie et ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. On va terminer avec les mails. On commence avec un mail du dieu des bisounours qui nous dit, déjà le sujet c'est sérieux. Il nous dit « Bonjour, je vous écris aujourd'hui pour pousser un coup de gueule. Non pas contre vous, mais contre vos auditeurs. » Ah, tenez-vous-le pour dit. Attention, ça va gueuler. La semaine dernière, on apprend que plein de monde s'est soucié de la santé de Steve. Mais on s'en fout, car un drame se jouait à côté de lui. La vraie information qu'on veut connaître, c'est comment va ce pauvre Gizmo. On l'a entendu souffrir en fond sur plusieurs podcasts, alors merci de donner de ses nouvelles. Et sinon, aucune question sur cette petite chose appelée comics. Câlin et vive les bisounours. Alors, je vais rassurer tout le monde. Gizmo va très bien, puisque le chien que vous entendiez tousser, ce n'était pas Gizmo, en fait, c'était le chien de ma mère que je gardais pendant 2 semaines, car elle était partie en vacances. Et c'est une chienne qui est vieille et malade, et c'est pour ça qu'on l'entendait tousser. Mais Gizmo, lui, va très bien. Il est tout content et il va parfaitement bien. Et
à part les ratonnades habituelles que tu lui gratifies, ça va très bien.
Oui, mais bon, enfin,
c'est l'habitude maintenant.
Il aime ça en plus. sinon, je suis très content de savoir que tu te fous de ma santé, le bisounours. Je suis vexé, je vais aller pleurer.
Mais les bisounours, c'est pas censé être gentil d'abord?
Bon, en tout cas, non, c'est une chienne qui est vieille, qui est juste malade, mais elle va bien. Voilà, enfin, elle est encore très active, elle est juste très malade, puisqu'elle a, bah, pour être complètement exact, elle a une grosseur qui pousse entre son cœur et ses poumons, qui lui comprime donc les poumons. Une grosseur inopérable, c'est pour ça qu'elle tousse très souvent. Voilà, vous savez tout. Là, je vous ai dégoûté. Complètement. Enfin, un mail de JB de la rue qui nous dit « Bonjour à tous, je me permets de vous écrire à nouveau pour avoir tout d'abord une information. Vous parlez souvent, enfin Steve en parle souvent, du run cosmique de Abnett et Lanning, et oui, Sam aussi, et Corinne bon. Aussi. Pensez-vous que je puisse encore trouver ces histoires en VF ?
Bah oui, c'est réédité en Deluxe.
Ah, tant mieux, voilà. Parce que moi non plus, je peux encore lire.
C'est les Deluxe Annihilation.
D'accord.
Alors, Annihilation, ça, c'était à l'époque...
c'est le début de l'histoire, c'est écrit au départ par Keith Giffen, qui a été...
Mais on a la suite à Annihilation Conquest, qui là a été repris par Abnett et Lanning, c'était vraiment le début de leur run sur les séries cosmiques.
Exactement, et sinon après pour les retrouver en kiosque, il va falloir faire un peu de recherche, pas mal d'occasions, mais ça se trouve dans les Marvel Universe.
Ouais.
D'accord.
Et je pense que ça reste encore trouvable, hein. Doit y avoir à peu
bonne
près
chance,
une...
Hein.
Ah, ça va pouvoir rester trouvable, je pense qu'il doit y avoir une quinzaine, vingtaine de kiosques Marvel Universe. Peut-être une trentaine. Vraiment adapté à l'univers de Lanning, alors que ça m'est parti vérifier en pleine émission.
Non, je suis toujours là. On a 28 Marvel Universe premier cycle. Et ensuite, on a pour Thanos Interoperative, il y en avait 4.
Ouais, donc
avec
voilà,
les mini-séries, voilà.
Grosso modo, une trentaine, puisque je crois qu'il y a peut-être un ou deux numéros qui sont intercalés dans le premier run de Marvel Universe qui n'étaient pas d'Abnett et Lanning et qu'on pouvait zapper. Mais bon, ça reste trouvable. Et puis ouais, voilà, les Deluxe avec le départ dans Annihilation, suivi de Annihilation Conquest et compagnie. Même si le départ est écrit par Keith Giffen, Abnett et Lanning étaient relativement vite attachés au projet et se sont très bien accaparés les idées de Keith Giffen et les ont modifiées à leur sauce, tout en étant respectueux de ce qu'il avait commencé à démarrer. Non, ça reste du très très bon. Et en VF, ça reste trouvable du eBay, du Price Minister, ton comic shop. Enfin voilà, il y aura pas mal de moyens d'arriver à les trouver, je pense. Ensuite, il continue avec un conseil. Avez-vous lu les épisodes contenus dans les 100% Marvel relatifs au Doctor Strange, le tome 1 de James Straczynski, réédité le 27 novembre par Panini, et le tome 6 de Brian K. Vaughan ? Dans l'affirmative, quelle est votre opinion à ce sujet ?
Salut.
Alors moi j'ai lu celui de Straczynski qui était sympa mais pas extraordinaire. Ça souffrait pas mal du trait de Brian Peterson qui pour moi était c'était juste horrible. Cette mini.
Quant à l'autre de Brian K. Vaughan est dessiné par Marcos Martin, bah ça va sans dire. C'est à lire, absolument. Très 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 bonne mini-série sur Doctor Strange. Et puis bon, un énorme tandem Brian K. Vaughan et Marcos Martin ensemble. Que l'on peut voir depuis sur The Private Eye, notamment. Oui, rappelez-vous ce projet.
Oui, non, mais je sais, mais j'ai arrêté de le lire, parce que Marcos Martin, moi, non.
Oh ! Mais Sam, mais j'apprends des choses sur toi ce soir, mais...
Alors, moi, j'ai pas lu
Private Eye. Oui, Marcos Martin, ça fait un moment que je dis que je n'aime pas ce qu'il fait, donc c'est pas ma faute.
Valentin.
Je disais que The Private Eye, je ne connais ni Dave ni Dadan, donc...
Pourtant, c'est pas faute qu'on en ait parlé. Oh là là. C'est un projet en digital où vous payez ce que vous voulez.
Ah oui, exact.
Tout simplement.
Mais j'ai pas eu le temps d'y jeter un coup d'œil.
Ce n'est pas bien. Non, c'est normal. On n'a pas forcément le temps de tout lire. Voilà, donc on termine le mail de JB Delarue qui nous dit « Je vous remercie pour vos réponses. Longue vie à l'équipe et au podcast. » Bah oui, on espère. C'est la phrase la plus nulle que j'ai pu faire, je crois, de cette émission. Quant au bref Twitter, Chaostorm nous dit « Le rocker Steve veut être bangé avec sa queue de cheval sur du Guitar Hero Kinect. » C'est bien ce qu'il fallait comprendre. Alors, je vois plus exactement à quel podcast cela fait référence. Mais oui, je pense avoir une idée de choses absolument ignobles que j'ai dû dire dans une émission concernant Kinect et une fameuse queue de cheval. Voilà. Personne peut m'aider là. Je sais plus dans quelle émission c'est. J'en fais tellement qu'au bout d'un moment, je les oublie.
Du tout. Mais ça doit être certainement dans un...
Mais ça devait être la semaine dernière, je crois. J'ai un vague souvenir de la conversation qu'on avait avec Mister René Bunny, entre autres, et Bruno. Quelque chose d'assez ignoble.
Oui, il me semble, parce que j'ai vu justement le tweet passer la semaine dernière, donc je suppose que c'était dans le weekly de la dernière fois.
Et donc oui, quand on est de bang avec sa queue, c'est bien sûr de cheval. Voilà. Soyons polis. En tout cas, merci à vous, auditeurs, le dieu des bisounours, JB de la rue, ainsi que Chaostorm et tous les autres, pour tous les mails que vous nous envoyez chaque semaine. Ça nous fait vraiment très plaisir. C'est tout pour cette émission qui, malgré une non-préparation de ma part totale, je suis content, ça s'est quand même relativement bien passé. J'ai bafouillé, hein, j'en suis désolé. Sachez que je me réveille, en fait. Comme un sale. Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous nous envoyez des mails, comme l'ont fait le dieu des bisounours et JB de la rue, à podcast@comiccity.fr. Vous pouvez nous envoyer des tweets sur Twitter, bien sûr, @comiccity. Et puis, n'oubliez pas de voter pour nous au Golden Blogs Awards.
Et d'envoyer de l'argent.
Oui. Toujours. On va monter un Kickstarter.
Inutile de le rappeler, tellement c'est évident.
À la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Ciao les gens.
Salut. Just for the taste.